Le lundi 16 janvier à 19h aura lieu à l'être lieu au sein du lycée Gambetta Carnot d'Arras l'inauguration de l'exposition du jeu vidéo Prisme 7, le jeu du Centre Pompidou. Dans la soirée, se tiendra une performance multidisciplinaire dans laquelle Alexis Trousset, artiste en résidence à l'être lieu, prendra partie prenante. Je me suis donc rendu dans l'atelier de l'être lieu pour en savoir plus sur cette soirée, en commençant par savoir qui en sont les organisateurs.
Je suis Alexis Trousset, je suis l'artiste qui a été invité à l'être lieu pour participer à cette résidence, dont la thématique est particulière et un peu inédite d'après moi, qui est une thématique sur le chaos. Donc c'est une thématique qui est très ouverte. Et donc voilà, moi je viens pour travailler surtout sur une pratique de l'estampe, de la gravure et de la performance. Et puis évidemment toute ma pratique plastique qui vient autour. Une sorte d'alternance entre la gravure, l'estampe, le dessin et la peinture. Comment la peinture fait dessin ou comment le dessin fait peinture ou la gravure se retrouve à travers certains de mes éléments.
Bonjour, Grégory Fenoglio, donc je suis professeur d'art plastique, classe préparatoire littéraire, ce qu'on appelle une CPGE, avec une option effectivement artistique au sein de cette classe préparatoire, avec des élèves qui suivent une option de 7 heures par semaine, qui associe à la fois culture artistique et pratique plastique, et particulièrement qui accompagne la résidence de l'artiste à l'être-lieu. L'être-lieu étant une association, loi 1901, qui a été créée à Arras en 2012, et qui invite des artistes en résidence, le plus souvent pour une durée de 6 mois, qui aboutit à une exposition rendue publique et à laquelle les élèves, les étudiants sont médiateurs, accueillent le public et participent à l'exposition.
Je me présente, je suis Mélodie Carpentier, je suis la personne en service civique à l'être lieu cette année. Je suis ancienne élève de la classe préparatoire grandes écoles de la cité scolaire Gambetta Carnot. C'est comme ça que j'ai connu l'association et que j'ai décidé de m'investir cette année en service civique. Et donc plusieurs missions peuvent varier selon les périodes et qui consistent à aider à la promotion de la résidence et des expositions qu'on peut organiser autour.
Par rapport justement à la prépa, comment est-ce que vous choisissez les artistes qui sont en résidence? Donc j'ai vu qu'il y avait 10 ans d'artistes qui sont passés en résidence. Comment est-ce que vous faites le choix de contacter tel ou tel artiste?
Alors le critère numéro 1, c'est sans doute la difficulté. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on cherche souvent à inviter des artistes pour qui ce ne sera pas forcément évident, ou en tout cas avec l'idée que leur présence ici, le travail qu'ils peuvent mener aussi avec les étudiants, ou ce contexte scolaire, puisse être aussi une difficulté, une possibilité aussi de faire un pas de côté, peut-être par rapport à une pratique d'atelier. Cette résidence constitue une expérience, à la fois pour l'artiste, évidemment, pour les étudiants. Alors ça peut être à travers un médium. Là, ça a été le choix, en invitant Alexis Trousset. C'est la première fois où on travaille avec quelqu'un qui fait de la gravure, travailler divers médiums, mais la gravure c'est assez inédit. Et puis la difficulté ici, qui est une chance à vrai dire, c'est comment faire de la gravure collectivement, à plusieurs. Là ça a ouvert tout un champ d'expérimentation très intéressant pour nous.
Pourquoi est-ce que vous, Alexis Trousset, vous avez accepté de venir ici en résidence?
La sortie de l'atelier. Moi, je suis enseignant aux Beaux-Arts de Tourcoing. J'ai l'habitude de travailler avec des élèves autour de thématiques et de médiums que je viens développer sur des cursus plusieurs années. Ici, ce qui était vraiment pour moi intéressant, et alors Grégory l'a dit, c'est la difficulté, mais c'est une vraie difficulté puisque je veux travailler avec des étudiants qui n'ont eu aucune pratique plastique réelle, en fait, qui ont peut-être un peu étudié l'art au collège ou au lycée, mais de façon très limitée dans les outils, dans l'emploi des matériaux et des pratiques. Et donc, du coup, c'est de me retrouver avec des élèves qui n'ont jamais gravé, car on ne grave jamais, c'est très rare. La gravure n'est pas un médium très développé, contrairement, par exemple, aux États-Unis, ou dans les écoles, elle est très pratiquée, ou aussi en Angleterre. En France, assez peu. Et puis, c'était de comment travailler avec ces étudiants et tenter de leur faire comprendre ce qu'était ce geste, en fait, cette pratique. C'est-à-dire comment il allait falloir travailler avec un médium qui répond pas tout de suite positivement à ce que l'on fait. Il y a une espèce d'âpreté, c'est pas évident au niveau des rendus au départ, c'est assez difficile. Et puis, comment le corps est extrêmement suscité, c'est un corps comment dire, un corps qui travaille réellement, hein, au sens tripalium, hein, c'est-à-dire au sens étymologique, souffrance. Il y a vraiment une difficulté au départ, puisqu'on doit travailler avec son corps, avec ses mains, on a des ampoules au départ, on peut avoir éventuellement des blessures. Et là, comme on a travaillé beaucoup sur la gravure sur bois, parce que je trouvais que c'était un médium qui permettait d'être directement dans le matériau, sans passer par des chaînes d'atelier où on a de l'acide, une préparation qui est un peu chimique, ça a permis de créer des chocs qui sont aussi esthétiques, puisque je suis venu avec mon propre travail, avec mes marottes, en quelque sorte. Donc ça a été une espèce de pétri collectif autour de ça, avec une prise de conscience que finalement, il n'y a pas une image qui peut sortir de nulle part, qu'elle vient toujours dans le connu pour aller vers ailleurs. C'est cet ailleurs qu'on recherche, en fait. Et puis, on est très vite arrivé à des gravures monumentales qui sont hors cadre, où on se perd dans le travail des autres, en fait. Et ça, ça m'intéressait beaucoup. C'est comment quelque chose peut naître qui, finalement, sort du cadre commun de reconnaissance. Qui a fait l'œuvre ? Est-ce que c'est l'artiste ? Est-ce que c'est le collectif ? Est-ce que c'est un groupe ? C'est des vraies questions aujourd'hui qui se posent, en réalité, qui se sont toujours posées, hein, notamment au Moyen-Âge. Avant qu'on signe les œuvres, elles sortaient de fabrique. Et donc c'est devenu un petit à petit, chemin faisant, un peu la thématique, la fabrique. Qu'est-ce que c'est qu'une fabrique et qu'est-ce qu'on y fait? Comment on se partage les peines? Qui va s'occuper des tirages? Qui va soulever les estampes, les montrer, les mettre à jour? Donc ça, c'était vraiment passionnant, quoi. Pour l'instant, on en est là. Avant de montrer, avant l'épisode de la monstration, de l'accrochage, on en est arrivé à un moment très intéressant.
Le 16 janvier, vous allez proposer la découverte du jeu vidéo Prism 7, à la suite duquel se déroulera une performance nommée KO. Pourquoi avoir décidé, choisi d'accueillir un jeu vidéo dans une prépa d'art contemporain ? Est-ce que c'est important que le jeu vidéo soit considéré au même titre que tous les arts ? On a parlé de gravure, on a parlé de tout type d'art différent. Est-ce que c'est important qu'il soit considéré comme un art à part entière ?
Alors il faut que je remette un petit peu dans le contexte en fait de la venue de Prism 7, hein, ce jeu vidéo du Centre Pompidou. Tout d'abord, c'est un partenariat avec le département dans le cadre de leur saison culturelle 2022-2023, un partenariat entre le département et le Centre Pompidou. Dans le cadre de ce partenariat, on accueille effectivement ce dispositif de jeu vidéo. Alors, Prism 7, c'est un jeu vidéo qu'on peut télécharger sur téléphone, ordinateur, tablette, etc., mais qui existe aussi sous la forme d'un dispositif, d'une installation. Donc on accueille cette installation, déjà. C'est donner aussi une certaine matérialité à quelque chose qui est de l'ordre du jeu. Après, la question de savoir si le jeu vidéo est un art, alors c'est une vaste question. Je dirais plutôt ici que le jeu vidéo s'inscrit plutôt comme une forme de médiation culturelle qui a été pensée par l'Éducation nationale et le Centre Pompidou, enfin, qui a été conçu par ces deux partenaires, avec l'idée de sensibiliser aux collections modernes et contemporaines du Centre Pompidou. Et donc, les usagers, les joueurs de Prism 7 font une aventure, déambulent, etc. dans ce jeu, et dans leur parcours, découvrent des œuvres, une quarantaine d'œuvres de la collection. Donc c'est un jeu qui se pense vraiment comme une médiation culturelle, une façon d'être sensibilisé aux collections. Et à partir du moment où dans le jeu on rencontre ces œuvres, il y a la possibilité d'approfondir. Ça se destine à un public très jeune, quelques notions autour des œuvres. Et ensuite on peut affiner, approfondir, il y a des liens, etc. pour aller vers des conférences, un approfondissement des œuvres. Donc ça remplit aussi un des rôles de l'Éducation nationale, de sensibiliser en fait à l'art moderne et contemporain. Je le dissocie de la question de faire œuvre, je le pense plutôt comme un dispositif de médiation culturelle. Alors ça m'intéressait parce que l'accueil de Prism 7 à l'être-lieu s'inscrit finalement à la moitié de la résidence d'Alexis Trousset ici. Et nous on a avancé petit à petit autour d'une thématique, celle du chaos. D'ailleurs, j'ai déjà donné, faire une confidence, le titre de l'exposition sera pour mars, Promesse du chaos. Et donc à partir de ce moment-là, on s'est dit qu'on pouvait aussi adapter la présentation de Prism 7 à travers un questionnement sur le thème du chaos. C'est ce qui sera fait justement le soir de l'inauguration, hein, le lundi 16 janvier, donc 19h inauguration, et à partir de 20h, performance, qui s'appelle Chaos. C'est une performance visuelle, percussion, bruitiste et poétique, et qui associera Emmanuel Comandi, des ateliers de l'A, qui est artiste, plasticien d'art numérique, qui proposera des projections vidéo directement inspirées du jeu Prism 7, mais sous l'angle là, évidemment, du chaos, et Alexis Trousset avec trois compères, deux étudiants, Jean-Baptiste Irun-Tigabeau et Romain Poupon, qui s'associeront à l'artiste, qui sont voilà, batteurs, performeurs et crieurs, ainsi que Maxime Manac, artiste sonore, qui s'associeront donc à l'image, aux projections, pour proposer cette performance vocale et sonore. C'était aussi une façon de détourner le jeu Prisme 7 et de proposer effectivement cette performance et de donner un avant-goût du chaos qui nous attend en mars avec l'exposition d'Alexis Trousset. Je tiens à préciser également l'inauguration, tout autant que la performance, donc du 16 janvier donc à 20h, c'est entrée libre et gratuite.
Comment va se passer la présentation du jeu vidéo ? Est-ce que ça va être diffusé sur un écran et quelqu'un va jouer, ou est-ce qu'il y a une autre manière de le faire ?
Pour ce qui est de la présentation du jeu vidéo, ça va se passer en plusieurs moments. Les personnes qui viennent visiter l'exposition et le dispositif vont pouvoir télécharger le jeu vidéo et se l'approprier eux-mêmes, que ce soit sur leur téléphone, sur leur ordinateur. Sur le dispositif, même sur place, dans nos locaux, on va avoir deux tablettes qui permettront aussi de jouer au jeu directement sans l'avoir téléchargé au préalable. Et on va aussi avoir toute une médiation guidée qui va permettre de découvrir l'œuvre et le dispositif en lui-même et les œuvres qu'il propose en dehors du dispositif même. Donc ça va être quelque chose à plusieurs niveaux.
Pour compléter ce que dit Mélodie, à partir de la présentation de Prisme 7, on a voulu aussi élargir cette exposition. Donc il y a trois photographies issues de l'atelier d'Alexis Trousset qui seront présentées. Trois photographies d'œuvres qui ont certaines résonances graphiques, plastiques aussi, avec la question de l'énergie et le chaos qui seront présentées. J'ai demandé aussi à Alexis, par rapport à la quarantaine d'œuvres qui présente dans le jeu, de faire une sélection d'œuvres avec lesquelles il sent une certaine connivence, des résonances avec son propre travail. Et à partir d'une sélection d'une dizaine d'œuvres, Alexis propose une analyse très libre, très très personnelle. Et ces textes seront projetés dans notre salle d'exposition et proposeront un regard singulier, personnel d'un artiste sur cette collection. C'est une façon aussi, là encore, de faire un pas de côté par rapport à la collection du centre et de proposer une forme de relecture aussi de ses œuvres de l'histoire de l'art.
En plus de cette performance et présentation qui va être faite et de l'exposition qui aura lieu en mars, est-ce qu'il y a d'autres projets ?
Déjà pour Prisme 7, dispositif, l'exposition est visible donc du 16 janvier au 12 février. On a fait le choix d'ouvrir samedi après-midi, dimanche après-midi. C'est Mélodie donc en service civique qui sera présente pour cette médiation, pour cet accueil. Donc voilà, venez, c'est gratuit, c'est libre. Et autour de l'événement, donc effectivement le 16 janvier la performance, le lundi 23 janvier, on a fait un partenariat avec une association qui s'appelle Playful, qui est une association qui s'est constituée pour la diffusion du jeu vidéo dans les lieux culturels et qui proposera deux conférences, une conférence à 15h et une conférence à 20h, avec une session de jeu participative autour du thème du chaos, c'est-à-dire que l'association a sélectionné toute une série de jeux vidéo autour de ces notions de désordre et de chaos et invitera le public à participer, à jouer. On est sur une forme de performance participative. Et enfin, le jeudi 9 février, donc à 20h, là encore en partenariat avec les ateliers de la Halle, donc à Arras, on organise une soirée de projection d'animation, là encore autour du thème du chaos, avec une sélection de films internationaux de Belgique, d'Italie, de Canada, du Portugal et des États-Unis qui auront été sélectionnés par les ateliers de la Halle, ainsi que deux petits films qui auront été réalisés ici au sein de la cité scolaire par les étudiants, donc les optionnaires d'art plastique de classe préparatoire, Hippocagne et Cagne, ainsi que par des élèves de 6e CHAP, classe à horaire aménagé art plastique. Ce sont des élèves de 6e qui ont 3 heures d'art plastique au lieu des 1 heure habituelle réglementaire et qui participeront aussi à la réalisation de petits films d'animation qui seront présentés dans cette soirée. Vous pouvez retrouver sur lettrelieu.com toutes les informations sur les horaires, sur les précisions sur le programme. Je le précise parce que lettrelieu.com est un tout nouveau site qui a été créé pour les 10 ans de notre association.
Le groupe qui est présent durant la performance, est-ce que c'est un groupe qui diffuse de la musique ou c'est uniquement un groupe qui est présent pendant des performances, donc qu'on peut ne le voir qu'en live ?
En 2021, j'ai créé un groupe, une espèce de collectif de recherche au sein même des Beaux-Arts. Donc c'était une espèce d'enseignement un peu parallèle qui se donnait dans une cave. Donc on avait aménagé une cave. J'ai fait une proposition à certains étudiants d'y participer et s'est créé un groupe de recherche qui n'avait pas de nom au départ, où on a donné une première représentation de performance aux Beaux-Arts avec une date. Ça a eu énormément de succès. Les étudiants Beaux-Arts n'avaient pas vu ça comme une perspective de création, comment on crée une performance dans un groupe. Par la suite, avec Robin Poupon, qui est un des membres, qui est un étudiant en fait, qui est devenu un membre important aussi. J'ai eu un échange qui a duré plusieurs mois, pratiquement 3 mois, tous les jours, d'improvisation sonore envoyée par Messenger. Je crois qu'historiquement, c'est le premier groupe qui est né par Messenger. Je ne connais pas d'autres exemples. Un groupe de performeurs qui est né comme ça. Et j'avais décidé de donner un nom, et je lui ai donné un nom comme ça, parce que je lisais du Beckett à ce moment-là, et je lisais un texte où il y a une sorte de déconstruction sémiologique. Et puis lui, il s'intéressait, Robin, beaucoup au lettrisme, et à Volman, qui est un des membres de l'International Lettrisme. Et j'ai décidé de l'appeler, ce groupe, IICS. Alors, IICS, parce qu'au départ, j'arrivais pas à le dire. On aurait dit un sketch de Bourville, littéralement, ça faisait IICS, j'arrivais jamais à le dire, et ça le faisait hurler de rire au téléphone, donc on l'a conservé. Et c'est devenu, donc, l'Institut International de Chute Sémiologique. Donc j'ai repris le travail de texte en correspondance avec la performance, c'est-à-dire comment déconstruire un texte, comment l'effondrer, qu'est-ce qui reste, donc quand un texte s'effondre, quand il est dans son chaos d'effondrement aussi, avec un pacte qui a été créé, qui est un pacte où on ne voulait pas faire de la musique, on ne voulait pas chanter, on ne voulait pas faire un spectacle. Donc on est à cheval entre deux choses, c'est pas vraiment de la musique, on s'intéresse surtout au bruit. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des bruits? On a beaucoup d'instruments. Dans le pacte qu'on a signé, décidant de ne pas faire de musique, on a décidé de ne pas faire plus d'une note. Donc si on a un instrument, il n'a qu'une note. On a des instruments qu'on n'utilise qu'avec une note. Donc ça, c'est pas évident à faire. Ça paraît simple quand on le dit. Qu'est-ce qui se passe quand on n'utilise qu'une note? Ben, il va y avoir une répétition automatiquement. Pour nous, le rythme, les performances qu'on met en place, le rythme est très très important. Comme dans un texte poétique qui est scandé, en fait. C'est véritablement un texte mis dans l'espace et performé.
Est-ce que dans la prépare contemporain, vous proposez aussi de la musique ? Proposer aux étudiants de pratiquer la musique?
Non, pas réellement. Après, ça peut se faire effectivement par le biais d'artistes en résidence, évidemment. C'est ce qu'apporte aussi un artiste, un intervenant. Considérer le son comme un matériau des arts plastiques, si, c'est une donnée, mais après, sur des expériences aussi poussées, aussi expérimentales, non. Là, c'est vraiment l'apport des artistes en résidence, ouais.
Après, ça dépend aussi des compétences techniques des élèves, mais chaque année, les élèves enregistrent aussi des podcasts. On a un studio d'enregistrement. Ça peut être de la lecture de textes qui existent déjà et que les élèves sélectionnent, ou la production de leurs propres textes. Et en l'occurrence, cette année, on a des élèves qui ont produit leurs propres textes et qui même vont récupérer leurs enregistrements et faire du montage sonore. Et selon leur capacité et leurs compétences techniques, vont proposer des choses. Là, cette année, on a la chance d'avoir vraiment des élèves qui arrivent à faire du bon montage en termes de son. Et ça donne des choses assez intéressantes. Donc ça dépend un peu des années, des promotions, des envies des élèves aussi, puisque les élèves réalisent leurs propres projets. Mais c'est pas exclu. C'est pas systématique, mais c'est pas exclu.
Le 16 janvier, à partir de 19h pour découvrir Prisme 7 et à 20h pour la performance. L'événement sera accessible gratuitement jusqu'au 12 février au 21 boulevard Carnot. Et du 27 mars au 16 avril, l'exposition d'Alexis Trousset, Promesses du chaos, organisée par les étudiants de la prépa art contemporain de la cité scolaire Gambetta Carnot. Plus d'informations sur le site lettrelieu.com.